Je laisse la parole à Monsieur Pelletier qui va nous parler des actualités.
Merci Audrey. Non, je parlerai que d'une seule actualité qui a occupé la presse ces dernières semaines. Merci. La greffe. Ça a occupé la presse ces dernières semaines. Bon, on en parle déjà depuis longtemps. Et puis, on avait fait un petit point l'année dernière pour aborder ce problème. Mais la presse en a beaucoup parlé pour deux raisons. Enfin, pour une raison principale, c'est ce livre qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, ce n'est pas son vrai nom. C'est un physicien qui est atteint de sclérose en plaques, parisien, et qui s'est posé un certain nombre de questions, bien sûr, quand on lui a annoncé la maladie. Et lorsqu'on a parlé de traitement, ce que vient d'expliquer Mme Rico, et qui a eu un travail un peu personnel de recherche, de compréhension sur la maladie, les traitements, et qui est arrivé en fin de réflexion sur la problématique de la greffe, on va en discuter, et des autogreffes dans la sclérose en plaques, qui a amené Le Monde, d'ailleurs, le 13 février, à sortir un supplément spécial, enfin dans le supplément en santé, deux pages spéciales sur la greffe contre la sclérose en plaques. C'est pas dans la sclérose en plaques, c'est contre la sclérose en plaques. Alors, on va essayer de replacer le contexte, mais ça, dans le contexte, mais on en a déjà parlé. C'est une maladie très compliquée, la sclérose en plaques. Le docteur Boutière vous a dit, il y a probablement des gènes de susceptibilité génétique qui fait que n'importe qui ne va pas faire cette maladie. Mais vous voyez, on en a identifié 150, donc c'est pas une maladie héréditaire. Un seul gène ne suffit pas. Et il en faut beaucoup. Il y a probablement des facteurs d'environnement, on en a parlé, des virus, le tabac, la vitamine D, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui ne sont probablement pas identifiés, et l'association des deux est effectivement très multifactorielle. Alors ça, ne regardez pas dans le détail, mais c'est un peu ce qu'on connaît de la maladie, à savoir que, on en a parlé, les lymphocytes qui font partie des globules blancs vont être activés et vont être programmés pour faire deux choses. La première, c'est arriver à passer le filtre qui protège notre système nerveux central, qui porte un nom barbare qu'on appelle la barrière hématoencéphalique, mais qui le protège en permanence parce que l'intérieur n'est pas soumis à des défenses immunitaires qui pourraient le protéger. Donc il faut que rien ne passe. Et le deuxième point, c'est que ces lymphocytes vont aller attaquer la myéline, les oligodendrocytes et la détruire. Ça, on connaît. Par contre, l'inflammation, c'était un petit peu décalé, dommage. Mais l'inflammation, c'est compliqué. Voilà un peu ce que les immunologistes appellent l'inflammasome, c'est-à-dire tout ce qui est en jeu lorsqu'il y a une réaction inflammatoire. Je vous rassure, je ne vais pas vous l'expliquer parce que je n'y comprends rien, mais c'est extrêmement compliqué avec un tas de mécanismes, de cascades, de médiateurs, de cellules, etc., etc. Donc, on ne connaît pas très bien cette maladie. Ce que vous a expliqué, Madame Rico, c'est que elle commence souvent par des poussées, et puis après, le handicap va pouvoir malheureusement intervenir au fur et à mesure des années, probablement lié en partie aux poussées, peut-être lié aussi à d'autres mécanismes qui sont indirectement liés aux poussées. Ce qu'on sait aussi, d'ailleurs, c'est que quand on fait le diagnostic de la maladie parce que la première poussée survient, c'est probablement pas le début de la maladie. De toute façon, vous l'avez compris, puisqu'elle vous a dit que sur la première IRM, Clémence Boutière, sur la première IRM, pour faire le diagnostic, il fallait des lésions nouvelles et anciennes. S'il y a des lésions anciennes sur la première IRM, c'est que ce n'est pas le début de la maladie. Et on est parfois amené à faire un diagnostic de sclérose en plaques radiologique juste sur l'IRM, chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes, parce que c'est une jeune femme qui a fait un malaise, et le médecin généraliste dit « bon, on va faire une IRM, ce sera plus précis qu'un scanner », et on trouve des lésions de sclérose en plaques chez une personne qui n'a jamais fait de symptômes. Donc on sait que cette maladie, lorsqu'on fait le diagnostic, elle a probablement débuté avant, et parfois peut-être même très longtemps avant. Elle va évoluer avec des poussées. On vous a expliqué que l'IRM était beaucoup plus sensible que les poussées. Vous voyez, il y a plusieurs flèches pour une seule poussée, puisqu'on voit des lésions, et notamment certaines lésions qui ne s'expriment pas d'un point de vue clinique. Et puis au fur et à mesure du temps, elle va peut-être, pas toujours, évoluer sous un mode progressif. Pour être un peu simple, cette partie-là, avec les poussées et l'IRM, on voit beaucoup de choses bouger, avec un caractère très dynamique. C'est l'inflammation et c'est l'atteinte de la myéline. Pour être simpliste aussi, le côté plus progressif de la maladie, où il y a moins de poussées, moins de lésions à l'IRM, c'est plutôt l'atteinte du neurone et de l'axone, qui en fait quelque chose d'un petit peu progressif, dégénératif. Alors, d'un point de vue traitement, Mme Rico vient d'en parler, Qu'est-ce qu'on sait faire actuellement? Ben ça, on ne sait sûrement pas faire, puisqu'on ne connaît pas bien les gènes, on ne connaît pas les facteurs d'environnement sur lesquels on pourrait agir pour éviter la maladie. Si on agissait là, il n'y aurait pas de sclérose en plaques. La réaction compliquée dont je vous ai parlé, où je vous ai montré juste une diapositive sur l'inflammation, l'inflammasome, on connaît quand même beaucoup de choses, notamment sur ces fameux lymphocytes T, qui vont rentrer à l'intérieur du système nerveux central, traverser le filtre, et ensuite aller attaquer la myéline. Donc on peut taper dessus. C'est un peu le rôle des traitements dont a parlé Madame Rico, c'est-à-dire des immunosuppresseurs, immunomodulateurs, pour agir directement ou indirectement sur la réaction immunitaire. On peut aussi faire rentrer des médicaments à l'intérieur du système nerveux central qui vont encore agir sur cette composante immunitaire. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas réparer et on ne sait pas protéger la circuiterie, notamment le neurone et les axones qui sont issus de ces neurones. La panoplie, elle n'est pas négligeable, Madame Rico vous l'a dit, mais il ne faut pas oublier qu'elle est très récente. Hein. Le premier traitement disponible dans la sclérose en plaques, 1995. Alors, initialement, ces fameux immunomodulateurs, les interférons, l'acétate de glatiramère, alors ça, c'est plutôt positif, parce qu'on est en 2018, on a 20 ans de recul, et on sait, notamment, elle vous l'a dit, que ces traitements sont indemnes de tout risque sur le long cours. Ils sont même plus contre-indiqués pendant la grossesse. Il y a une deuxième classe de médicaments qui était apparue une dizaine d'années après, qui est le natalizumab, le Tysabri, et puis là, on a renforcé la panoplie depuis les années 2010 avec des traitements par voie orale, dont elle vous a parlé, et l'arrivée plus récente du dernier qui s'appelle l'ocrelizumab. Mais quand on regarde attentivement, tous ces traitements ont montré une efficacité sur l'inflammation, c'est-à-dire ils bloquent les poussées, ou en tout cas diminuent la fréquence, ils bloquent l'activité inflammatoire à l'IRM, on ne voit pas apparaître de nouvelles lésions, mais tous ces traitements se sont cassés le nez dans les formes progressives de la maladie. C'est-à-dire que ces traitements qui agissent sur l'inflammation ne sont pas capables de limiter la progression de la maladie s'il n'y a pas d'activité inflammatoire. Le seul qui a montré un effet positif, c'est l'ocrelizumab, mais dans une situation progressive où il y a de l'activité inflammatoire à l'IRM. Et c'est un peu le cas d'un produit très proche du fingolimod qui s'appelle le siponimod, qui a aussi montré une efficacité dans les formes progressives. Mais quand on regarde attentivement, c'est vraiment des formes progressives où il y a une activité inflammatoire. Donc, on peut agir avant que ces éléments rentrent dans le système nerveux central. Et les médicaments dont on a parlé, ils agissent principalement à ce niveau-là, c'est-à-dire ils vont soit de façon spécifique, soit de façon un peu large, éliminer ces fameux lymphocytes T avant qu'ils rentrent dans le système nerveux central. Ils vont agir sur une autre classe de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B, qui fabriquent des anticorps qui sont toxiques pour l'oligodendrocyte et ou la myéline. Et puis certains vont même agir, passer à l'intérieur du système nerveux central pour avoir une activité directe avant que la myéline ne soit touchée. Et le natalizumab, c'est cette flèche-là. Hein, le Tysabri bloque l'entrée à l'intérieur du système nerveux central. Donc même s'il y a des cellules à l'extérieur, si elles ne peuvent pas rentrer, on comprend bien que l'inflammation soit diminuée et l'atteinte de la myéline aussi. Et on retrouve d'ailleurs ces médicaments. Par exemple, le natalizumab ici, il bloque le filtre. Le rituximab ou ocrelizumab sur les lymphocytes B pour bloquer la production de ces anticorps. Autre exemple avec le fingolimod qui va agir à l'intérieur du système nerveux central, mais aussi sur les lymphocytes T. Donc on connaît bien ces produits. On connaît leur efficacité par des études. Mais, Mme Rico vous l'a dit, il faut toujours classer les choses en deux parties. L'efficacité. Donc vous voyez qu'il y a des produits qui sont dans les études beaucoup plus efficaces que d'autres. Et la tolérance. Il y a des médicaments qui sont très très bien tolérés, y compris sur le long terme, 20 ans de traitement, mais dont l'efficacité se situe plutôt ici que par rapport à ici. Et les traitements de deuxième intention dont elle a parlé, les secondes lignes, ou un peu troisième ligne, si on peut dire, ben, sont beaucoup plus efficaces, mais avec un risque, si on peut dire, qui est beaucoup plus élevé. Et vous avez dans un coin la transplantation, donc la greffe, où si vous regardez bien, est au-dessus de tous les autres, mais avec une efficacité qui est très bonne, mais avec une tolérance qui est très mauvaise. Donc c'est un peu ce qui a intéressé les journaux. Voilà. avec un dernier point dont on va parler, c'est à quel moment ce traitement pourra être utilisé, à partir du moment où on vient de vous expliquer que tous les médicaments dont on dispose sont efficaces sur l'inflammation, ici, et qu'il faut les commencer le plus tôt possible pour éviter qu'il y ait un handicap, qu'il y ait d'autres poussées, qu'il y ait d'autres séquelles, donc qu'il y ait, on va dire, une gêne liée à la maladie. Donc on va essayer d'être très objectif. D'abord, vous expliquer à quoi correspondent ces greffes. Alors, c'est des greffes, on appelle ça autogreffes. C'est-à-dire, on prend les propres cellules de la personne. On va d'abord stimuler, si on peut dire, le système immunitaire pour faire sortir des cellules souches. On a tous des cellules souches, c'est-à-dire des cellules très jeunes, qui ne sont pas différenciées et qui pourraient être amenées à se différencier après. Donc, on va faire un traitement injectable, attendre quelques jours et récupérer comme un don de sang, une quantité importante de sang, qui va ensuite être mis de côté, traité dans une certaine mesure pour ne garder que un paquet de cellules souches, un gros paquet de cellules souches. Deuxième élément important de ce traitement, qui est sûrement le plus important, c'est puisqu'on considère que dans la sclérose en plaques, il y a une réaction immunitaire qui est anormale, avec une attaque de cellules immunitaires qui devraient nous protéger et qui va nous attaquer, le principe, c'est de dire on nettoie tout. On nettoie complètement le système immunitaire, on entraîne ce qu'on appelle une aplasie médulaire, c'est-à-dire on détruit le système immunitaire avec des chimiothérapies très lourdes qui font que pendant 3 semaines, les personnes, c'est un traitement qui est utilisé très fréquemment en cancérologie, notamment dans les leucémies aiguës de l'enfant, et qui les guérit d'ailleurs, pendant 3 semaines, la personne est dans une chambre stérile, ne peut pas bouger, pas sortir, parce qu'elle est incapable de se défendre d'un point de vue immunitaire. Donc le moindre virus qui passerait serait potentiellement mortel. Et ensuite, on réinjecte ce qu'on avait mis de côté avec ces cellules souches, toutes jeunes, qui vont ensuite recoloniser l'ensemble de l'organisme et recréer un système immunitaire dont on peut espérer qu'il ne garde pas la mémoire de la maladie, puisqu'il est totalement nouveau et qu'on a éliminé l'ancien. Donc, on fait sortir les cellules, on détruit le système immunitaire et on greffe. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Il y a un avantage certain, c'est une autogreffe. On prend les propres cellules de la personne et on les réinjecte. Pas de risque de rejet, comme quand on greffe un rein d'une autre personne, bien évidemment, et surtout pas de nécessité de faire un traitement immunosuppresseur, d'avoir des médicaments anti-rejet qui sont eux-mêmes potentiellement toxiques, notamment sur le long cours. Par contre, il y a un risque important qui est le risque lié à la chimiothérapie, c'est-à-dire à ces 3 semaines où on n'a plus de système immunitaire du tout, même si on prend toutes les précautions, il peut y avoir des complications infectieuses, il peut y avoir malheureusement des décès. Et dans les meilleurs centres français qui sont très spécialisés dans le domaine, le taux de mortalité, c'est-à-dire le risque de mourir à cause du traitement, pas à la maladie, est de 1 à 5%. Alors c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question aujourd'hui de savoir si dans notre domaine, la sclérose en plaques, on dispose de médicaments qui sont potentiellement aussi mortels en termes de fréquence par rapport à cette approche. Deuxième chose qui peut être importante, c'est qu'on utilise des chimiothérapies lourdes qui ne sont pas indemnes de risque à moyen-long terme, notamment chez les enfants pour lesquels on a du recul après des leucémies aiguës qui ont été traitées par ces autogreffes. 15 ou 20 ans après, il y a notamment des cancers, probablement parce que le système immunitaire a été modifié, et des risques d'infection plus fréquentes, liés probablement à la chimiothérapie, voire des risques qui sont intimement liés au traitement qui a été utilisé pendant la chimiothérapie. Et puis, dernière question qui n'est pas du tout réglée, vous allez le voir, c'est est-ce que ça marche vraiment sur le très long terme? C'est-à-dire, est-ce que la maladie va s'éteindre définitivement, ou est-ce que 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on est sûr d'avoir éliminé la mémoire immunologique de la maladie et il n'y a pas des cellules qui vont revenir et faire repartir la maladie. Alors je vais vous donner, enfin, regardez pas les titres en anglais, mais c'est des très grandes revues anglaises, bien sûr, des 3 études qui ont été faites depuis 2016. Il y avait eu beaucoup d'études avant, mais dans une situation beaucoup moins bien organisée. Donc première étude en 2016 d'un groupe canadien, enfin de plusieurs équipes canadiennes, qui ont greffé 24 patients, 18-50 ans, suivi 13 ans. Alors, pas tous, mais le plus ancien a 13 ans de suivi. La moyenne était à plus de 7 ans. Et ils se sont intéressés à des personnes qui avaient une forme agressive de sclérose en plaques, dans le sens où ils faisaient beaucoup de poussées, avec un handicap, donc une gêne, qui était rapidement installée et parfois même très sévère. Malgré certains traitements de fond qui étaient utilisés, donc des patients qui résistaient aux traitements de fond. Et ils ont quand même pris le soin de regarder à l'IRM avant et de confirmer que ces malades évoluaient parce qu'il y avait beaucoup d'activités inflammatoires de la maladie, beaucoup de poussées et beaucoup de lésions à l'IRM. Résultat, 70% à 7 ans n'ont plus aucune progression de la maladie. Ils n'ont pas fait de poussée, il n'y a rien au sens de l'évolution progressive non plus. Stabilité du handicap, pas de poussée, voire 40% avec une amélioration des troubles neurologiques. Un patient décédé lié au traitement, donc 1 sur 20. Hein, ce n'est pas 1%, c'est 1 sur 20. Alors c'est vrai, quand on voit les résultats, c'est impressionnant. Toutes les petits points rouges que vous voyez là sont les poussées avant la greffe. La greffe, elle est là, le trait noir. Et tout ce que vous voyez en rouge sur le deuxième graphe, ce sont les lésions actives à l'IRM avant la greffe et après. Deux patients ont fait une poussée après la greffe, dont certains sont suivis depuis 13 ans. Hein. Là, vous avez l'échelle de temps. Et les deux mêmes patients, d'ailleurs, ont fait des lésions, nouvelles lésions à l'IRM. Donc c'est bien cohérent. Mais la très grande majorité faisait beaucoup de poussées et beaucoup de lésions à l'IRM, et ensuite, plus rien. La petite croix, malheureusement, c'est la personne qui est décédée. Et quand on regarde, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais quand on regarde la variation du handicap, il y a même des patients qui vont mieux, qui ont récupéré en termes de handicap, parce qu'ils sont dans le négatif. Donc dans les points négatifs, c'est-à-dire qu'ils étaient plus hauts, ils sont redescendus sur l'échelle de handicap. Deuxième étude américaine, l'année suivante, 25 personnes, à peu près dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, vous voyez, des gens, bon, c'est compliqué, mais il y a des couleurs différentes, avec des couleurs pour les pousser, c'est les petites étoiles bleues, et l'activité IRM, qui est principalement sur les petits éléments qui sont plus clairs, voilà. Et la greffe est ici. Donc beaucoup de poussées avant la greffe, pratiquement plus aucune poussée, une ici, une là, après la greffe. 50 suivis en moyenne, par contre 3 décès sur 25 personnes. Là, on n'est pas non plus à 1%. 90% n'ont pas progressé au bout de 5 ans, 90% n'ont pas fait de poussée et 90% n'ont plus d'activité à l'IRM. Donc un résultat quand même très impressionnant en termes d'efficacité, un résultat très décevant d'un point de vue de la tolérance, avec 3 personnes décédées liées au traitement sur 25. Alors regardez pas ça, mais par exemple, ce que vous voyez en bleu, c'est le pourcentage de personnes qui n'avaient aucune nouvelle lésion à l'IRM. Donc vous voyez qu'ils sont pratiquement à 100%. Donc efficacité remarquable du traitement sur une durée de 5 ans. Et puis dernier article qui vient de paraître, fin février, qui est encore plus, on va dire, intéressant, parce que ce sont des équipes qui se sont réunies pour faire un vrai protocole qui s'adressait à un groupe plus important de patients. Vous voyez, plus de 100 patients, moyenne d'âge 36 ans, donc plutôt jeune, avec des patients qui faisaient beaucoup de poussées, avec une forme, donc, avec poussée de la maladie, dont la majorité avait un traitement de fond de première intention, dont vous a parlé Mme Rico, mais qui ne marchait pas bien, parce qu'ils continuaient à faire des poussées et ils continuaient à avoir une activité inflammatoire à l'IRM. Ils ont même pris des critères très stricts. Il fallait avoir fait au moins 2 poussées l'année précédente sous traitement, ou une poussée, mais avec une IRM qui était très active. Et avec un handicap, ça c'est l'échelle de handicap qu'on utilise habituellement, 2 c'est très très léger, les gens ne sont pratiquement pas gênés. 6, ils commencent à avoir des troubles pour marcher, d'accord ? La réponse, vous l'avez là. Vous avez le groupe de personnes qui a été traité avec un traitement normal, de deuxième ligne, versus les personnes qui ont été greffées. C'est-à-dire les 110 personnes ont été mis la moitié dans la greffe, l'autre moitié avec un traitement de deuxième intention, puisque le traitement de première intention ne marchait pas. Là, vous avez le temps mis, si on peut dire, pour progresser. Vous voyez qu'à 1 an, les personnes qui ont un traitement de deuxième ligne commencent à progresser. Et quand on arrive à 5 ans, il y a pratiquement 70% des personnes qui ont progressé. Et même chose pour le temps mis pour faire la première poussée. Le premier patient a fait la première poussée sous traitement de deuxième ligne à 6 mois. Le premier patient l'a fait à 12 mois. Et il y a un deuxième patient qui a fait une poussée, c'est-à-dire deux patients ont fait une poussée sur les 50 versus 70% à 5 ans. Progression 3, sous traitement de deuxième ligne, 34 patients sous traitement, 3 sous greffe et 34 sous traitement de deuxième ligne à 2 ans. Et l'amélioration du handicap, vous voyez, dans le groupe greffe, 3,5 à 2,5, ils ont gagné un point de handicap, alors que dans le groupe traitement classique, ils ont pris un demi-point supplémentaire au sens négatif du terme. Donc, effet remarquable de ce traitement, avec une chose qui est quand même importante, sur les 110 personnes, personne n'est décédé en rapport avec le traitement. Donc, certains ont fait des recommandations, alors c'est surtout des spécialistes nord-américains, canadiens et États-Unis, pour que ça soit assez clair, parce que dans la presse, il y a eu beaucoup de messages pour dire ce traitement est très efficace, il faut faire attention, il est dangereux, mais pourquoi il ne serait pas utilisé comme les autres ? Donc il faut probablement, sûrement même, que les personnes atteintes de sclérose en plaques soient des gens qui n'ont pas trop d'évolution de leur maladie en termes de durée et en termes de handicap, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. On peut éviter d'aller en avant, mais c'est difficile de revenir en arrière. Et les deux autres paramètres, c'est qu'il y a une activité inflammatoire, et à l'IRM, et principalement avec les poussées. Le troisième paramètre qu'on pourrait mettre, parce que c'est bien évident qu'avec un tel taux de mortalité, on ne peut pas en faire un traitement de première ligne, c'est d'être sûr que les traitements classiques ne fonctionnent pas, mais de ne pas trop attendre longtemps pour s'assurer qu'ils ne fonctionnent pas. Et puis, autre élément qui est très, très, très important, mais qui n'est pas vraiment le problème qu'on rencontre dans la sclérose en plaques, c'est être sûr qu'il n'y ait pas d'autres maladies associées pour lesquelles le traitement pourrait impacter de façon négative. Je ne sais pas, que les patients plus âgés qui ont une insuffisance cardiaque risquent de faire des complications à la chimiothérapie, par exemple. Et ils ont classé un peu, en termes d'efficacité, les différents traitements dont on dispose actuellement. Alors ça, c'est les traitements de première ligne. Là, vous êtes principalement dans les traitements de deuxième intention. Et là, vous avez les études des greffes. Bon, c'est clair qu'on est entre 70 et 90% d'efficacité pour la greffe versus 50, 60% ou 30% pour les autres traitements. Donc une efficacité qui est certainement plus élevée, mais avec une tolérance qui reste pour l'instant difficile au sens de son utilisation dans la pratique quotidienne. Et avec des questions qui ne sont pas complètement résolues, à quel moment faut le faire ? Il faut attendre combien de temps pour le faire ? C'est-à-dire, il faut attendre combien d'échecs de traitement pour dire il n'y a pas d'autre solution, il faut y aller. Les spécialistes discutent beaucoup des chimiothérapies qui sont utilisées, parce qu'on peut utiliser des médicaments différents qui peuvent avoir des effets secondaires différents, notamment en termes de toxicité. Autre question qui n'est pas résolue, mais les trois études qui viennent d'être publiées, les patients sont suivis, donc on aura des réponses dans l'avenir, c'est combien de temps ça dure ? Est-ce que c'est, comme disent les anglo-saxons, one shot, une seule fois, et puis après on est tranquille, et on n'a plus d'autres traitements à utiliser. Et comment le placer par rapport aux autres thérapeutiques, dont on vous a quand même expliqué que si on commençait tôt, ces traitements étaient efficaces sur la durée et n'avaient pas ou peu d'effets secondaires si on était attentif concernant leur surveillance. Donc les recommandations qui sont issues des études dont on vient de parler, c'est de faire d'autres études sur des plus grands groupes de personnes, notamment pour évaluer la tolérance, et de suivre au long cours les patients qui ont été greffés pour savoir combien de temps ce traitement va durer en termes d'efficacité. Et puis, je crois qu'il est fatigué. On va s'arrêter là, et puis peut-être que l'année prochaine, on aura d'autres données à vous rapporter qui permettra d'y voir un petit peu plus clair. Merci.